j'ouvre la porte et j'entends boum 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 boum. Je me suis dit merde. Si il m'avait déposé au métro là, je serais même pas là aujourd'hui à parler avec toi. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, il faut que je sorte d'ici. Il faut que je sorte d'ici. Je vais, ce sera le dessin. C'est sûr. Là, j'ai un métier. Il faut juste que je me défonce, que je sois assez bon pour partir.
Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chasseurs de rêves. Ce podcast a pour ambition de partager le parcours et les clés de personnes ordinaires qui ont décidé de se bâtir une vie extraordinaire. Toutes ces personnes ont au moins un point commun, elles sont passées à l'action. Après s'être mis en déséquilibre, elles ont franchi divers points de bascule pour se rapprocher de la réalisation de leurs rêves, et c'est ce que nous allons décortiquer ensemble. Je suis Alexis Castro, dirigeant d'un cabinet de conseil, et j'adore stimuler les gens à agir pour être acteurs de leur vie. Je suis déterminé à rendre accessible au plus grand nombre des parcours de vie inspirants, afin que chacun puisse piocher ce qui l'impacte, passe à l'action, et fasse à son tour un pas vers la réalisation de ses rêves les plus profonds.
Bien, bah bonjour Smaël, merci d'avoir accepté mon invitation.
Salut Alexis.
Comment tu vas déjà?
Je vais super bien.
Ouais.
Super bien, j'ai de très longues journées.
Oui.
Tant mieux. Tant
bon, mieux. Et exactement.
J'ai assez de forme pour pouvoir tenir ces journées.
Donc tu as une hygiène de vie parfaite, j'imagine.
Une hygiène de vie parfaite, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle me permet de tenir les très longues journées.
Ok, bon bah écoute, on en parlera. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est de te présenter, voilà, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quel est ton parcours, ta carte blanche.
Très bien. Alors moi, c'est Smaël Mayabo, je vis à Toulouse et j'ai un atelier d'art en ligne dans lequel je donne des cours de dessin et de peinture académique. Donc c'est dessin académique, c'est tout ce qui représente le portrait réaliste, le corps humain, l'anatomie, la mise en valeur par les ombres et les lumières, mais aussi d'autres techniques comme le fusain, la pierre noire, la peinture à l'huile également, et voilà, le dessin de plâtre.
Ok, donc voilà. Hyper varié.
La perspective également.
Ok. Quand on s'était vu, je crois que tu n'avais pas encore ton studio, non?
Là, je suis chez moi, j'ai un bureau.
Oui, oui, mais là où tu fais tes cours. Non?
Mais mes cours sont tous en ligne.
Ok, ouais, c'est tout en ligne. Ok. Mais c'était ton rêve d'avoir le studio, c'est ça, si je me souviens
c'est
bien?
C'est ça, c'est ça. Ah, okay. Je compte ouvrir un atelier d'art dans lequel je donnerai des cours en présentiel.
Ok. Mais
pour l'instant, je bosse chez moi. De temps en temps, je vais dans un coworking quand j'ai envie de sortir.
Ouais. Mais écoute, fabuleux. Et alors, toi, le Smaël qui avait une dizaine d'années, il était comment? Et de quoi il rêvait?
Alors, quand j'avais 10 ans, je peux pas, tu sais, comme tous les enfants, toutes les 3 semaines, on change de métier de rêve, hein. Mais je dessinais déjà, et au collège, je savais déjà que j'allais en faire mon métier.
D'accord.
Voilà, le dessin à la base, ça vient... Bon, j'ai commencé comme tous les enfants, hein. Tu sais, toi aussi, tu as dû tenir un crayon et un feutre et gribouiller sur une feuille. Moi, j'ai pas arrêté, contrairement à beaucoup de personnes. Et je n'ai pas arrêté en partie à cause de l'environnement dans lequel j'étais.
Mmh.
Voilà. J'ai grandi dans, tu sais, ce qu'on peut appeler les banlieues ou les quartiers défavorisés, les endroits un peu chauds de Toulouse.
Ouais.
Dans les quartiers au sud. Et comme j'avais déjà un peu conscience que à l'extérieur c'était un environnement assez violent, je parle du quartier, pas de la ville entière. Eh bien, moi, je voulais pas être lié à ça. Alors, je restais chez moi et je dessinais.
Ok.
Voilà. Et ça, c'était à l'âge de 6-7 ans. Quand je sortais de chez moi... Déjà, je sors... Mince.
Non, ça marche, c'est bon.
Ah, ok, d'accord. Ouais. Il y a une page qui s'est ouverte.
D'accord.
À l'époque, même étant petit, j'avais déjà conscience de certaines choses. Par exemple, les voitures qui brûlent ou les fusillades. Je me disais, mais c'est... Je me demandais si c'était normal... Et ça me donnait pas envie de sortir dehors. Donc, je restais chez moi, je dessinais. Et si je devais sortir, je faisais maison, métro, métro, maison.
D'accord.
Tu vois. Voilà. Et en ce qui concerne l'école, c'était pareil.
Ouais.
Parce que je me souviens d'anecdotes où j'étais à l'école du quartier. Hein, et on se disait, mince, à 18h, il faut qu'on soit chez nous parce qu'il y aura une fusillade entre tel quartier. Ça donne pas... Si tu es un enfant un peu mature... Et que tu n'aimes pas la violence ou ce genre de choses, tu restes à la maison. Voilà. Et moi, je restais chez moi et je dessinais.
Ah oui, donc c'était quand même la violence à ce point-là. C'est-à-dire qu'en sortant de l'école, tu savais qu'il allait y avoir une fusillade.
Oui, 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 oui. Et d'ailleurs, je te raconte parce que je me souviens d'un soir comme ça.
Ah ouais?
Oui, oui, bien sûr.
Incroyable.
Je me souviens d'un soir où on sortait de l'école.
Ouais.
Et on rentrait tous chez nous en courant parce que à 18h, il y aurait une fusillade entre le quartier dans lequel je vivais et le quartier d'à côté.
Ok.
Donc, ah ouais. C'est ce genre de choses-là. Ça arrivait pas tout le temps, évidemment. Ouais. Mais ça pouvait arriver. Les voitures qui brûlent, c'était tous les soirs, ça, pratiquement, ouais. Chaque semaine. C'était un peu chiant à vivre. Et ouais. Moi, j'avais conscience de ce genre de choses. Je voulais pas en faire partie. Donc, je restais chez moi, je dessinais. J'avais un groupe d'amis aussi, à partir du collège, avec lesquels, après le lycée, on allait à la salle de musculation, on faisait du sport ensemble, on se voyait. En général... On restait chez nous, donc ou chez mes potes, ou chez moi, et on essayait de faire nos projets ensemble.
Oui.
Et surtout, éviter les problèmes de quartier, éviter de se faire amis avec n'importe qui. Donc voilà, tu grandis dans une certaine conscience.
Oui.
Et ça te donne envie d'en sortir. Et parfois, il y en a qui se mettent au foot, par exemple. Beaucoup de footballeurs viennent de quartiers défavorisés. Moi, c'était le dessin.
Et du coup, tu avais quand même un groupe d'amis dans la même ambiance à se dire, ben nous, faut pas qu'on tombe là-dedans et on reste entre nous, c'est
oui,
ça?
Oui, bien sûr.
Et c'était quoi ton rêve à cette époque-là? Alors, est-ce que c'était déjà le dessin ou autre chose ou juste sortir du quartier?
Alors, quand j'étais petit, c'était dessiner pour éviter d'être dehors. Arrivé au collège, ça a commencé à devenir mon rêve parce que j'adorais les animes Pixar ou DreamWorks.
Ouais.
Mon rêve, c'était de bosser chez Pixar ou DreamWorks. Je copiais énormément. J'achetais des magazines de rap et il y avait des caricatures de rappeurs dans ces magazines. Et moi, je m'amusais à les copier. Je faisais ça chez moi en cours. Et dans le but de pouvoir apprendre le dessin pour travailler chez Pixar ou DreamWorks.
Trop bien. Donc, tu as commencé par recopier des modèles et à partir de quel moment t'es venu la créativité, la création, l'apprentissage? T'as appris comment en fait?
Assez tard parce que quand j'ai commencé à dessiner, je commençais par Dragon Ball Z, par les mangas, tu sais, on est tous passés par là, par les mangas, puis la bande dessinée. Et pendant très longtemps, je n'ai fait que copier. Je pense que la création a dû commencer au lycée. Au lycée, j'ai commencé à créer mes propres personnages. Et tard, au lycée, peut-être en terminale, je dirais, j'ai commencé à créer mes propres personnages, mes propres histoires, mes propres paysages également, tout en m'inspirant de tout ce que j'avais dessiné les années précédentes. Ok. C'est l'âge auquel j'ai vraiment décidé que j'allais en faire mon métier, c'était à 15 ans.
C'est précis.
Ouais.
Oui, c'est important.
Parce que, encore une fois, j'en reviens à ce que je te racontais au début. Une fois, j'avais 15 ans et il y a une prof de français. Alors, je mets du temps à raconter l'histoire parce que c'est plus très clair dans ma tête. Mais c'était une prof de français qui nous avait donné des billets ou offert des billets pour aller voir un match de hockey. Si je me souviens bien, c'était du hockey. Et c'était un vendredi soir. Donc, j'y suis allé avec un pote. Et donc, c'était le soir. Et en revenant, son oncle... Donc, lui, il habitait vraiment à quelques minutes de chez moi, à 15 minutes à pied. Mais son oncle est venu nous chercher après le match en voiture. Et en me ramenant chez moi, j'ai dit à son oncle, vous pouvez me déposer au métro. D'accord ? Et mon pote, il m'a dit... on avait 15 ans. Il m'a dit, non, dépose-le en bas de chez lui. Et ensuite, on rentrera. J'arrive chez moi. J'habitais au troisième. Donc, je monte, j'ouvre la porte et j'entends boum, 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 boum. Et je me suis dit, merde. S'il m'avait déposé au métro, là, je ne serais même pas là aujourd'hui à parler avec toi. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, il faut que je sorte d'ici. Il faut que je sorte d'ici. Ce sera le dessin. C'est sûr. Là, j'ai un métier. Il faut juste que je me défonce, que je sois assez bon pour partir. Moi et ma femme, bien sûr. Tu vois? Donc, voilà.
D'accord. Donc, c'était ce jour-là, la décision où tu t'es dit, je veux vivre du dessin. Parce qu'il y a, je veux sortir du quartier, tu vois, je veux réussir. Mais il y a, je veux que ce soit par le dessin. Qu'est-ce qui fait que c'était par le dessin? Tu sentais déjà que tu avais quelque chose?
Je voyais aussi les adultes autour de moi qui souffraient de leur travail, qui étaient malheureux.
Et donc ça, tu t'es dit, moi, je dois être heureux dans mon travail?
Oui, voilà, c'est ça.
Top. Quelles ont été les prochaines étapes, alors, à partir de cette décision?
À partir de cette décision, je me souviens que je travaillais aussi, j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans après le lycée. C'était avant que Sarkozy ne supprime la loi qui nous autorisait, qui autorisait les mineurs à travailler. Donc j'ai commencé à travailler pour dans l'optique justement de pouvoir payer des études ou de payer un appartement en dehors de la cité. Donc j'avais 16 ans là à l'époque. Je travaillais chez Domino's Pizza et je distribuais des prospectus avec le même pote avec lequel j'étais allé voir le match de hockey. Il y a eu ça, j'ai enchaîné les petits boulots aussi après le lycée, bien sûr. Parce que l'école c'était j'avais aussi parfaitement conscience que c'est extrêmement important l'école. Savoir sociabiliser avec les gens, avoir un bon contact également. Non, mais vraiment, on apprend énormément de choses et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui négligent l'importance de l'école, peut-être parce que on a l'éducation en abondance. Mais il faut quand même se rappeler qu'il y a des gens qui marchent 3 ou 5 kilomètres pour aller à l'école. Enfin, voilà. Donc, j'ai trouvé un travail, j'ai économisé de l'argent. Après l'école, quand je suis allé en terminale, après l'école, je savais déjà que j'allais faire une école d'art. Donc, je restais après les cours. Tu sais, au lycée, on a des cours d'art plastique.
Oui.
Et j'avais une prof qui, après l'école, me donnait des cours.
D'accord. Que à toi?
Non, on était trois.
OK.
Donc, elle nous donnait des cours une ou deux fois par semaine et après jusqu'à 20h30 environ. Et ensuite, elle nous ramenait au métro pour qu'on rentre chez nous. Voilà. Et j'ai
de manière bénévole ou en plus, elle le faisait? Ah ouais.
Oui, oui.
Donc, elle donnait son temps pour vous.
On restait au lycée jusqu'à 20h30 et on dessinait.
Donc, elle partageait sa passion. Pour elle, ça devait être top aussi.
Oui, c'est ça. Ah. Exactement. Elle était prof de dessin. Donc, elle voit des élèves qui sont passionnés par le dessin, qui eux aussi veulent vivre. Ouais. Ça, ils ont parlé tout le temps de dessin. Donc, et c'était des potes qui vivaient dans les quartiers aux alentours, en fait. Et c'était les mêmes avec lesquels on grandissait et on évitait de rester en bas des immeubles. On était quelques-uns comme ça à aimer le dessin. Voilà, j'ai oublié même l'anecdote, toi aussi, tu t'en souviens peut-être, mais les émeutes de 2005.
Ouais.
Il y a eu ça aussi qui a conforté ma décision.
Donc, c'était vraiment cette ambiance de violence parce que tu vois, moi, j'ai grandi à la campagne. J'habite à Toulouse depuis 5 ans. Je sais qu'il y a des quartiers chauds, tu vois. Et je suis loin d'imaginer que c'était à ce point-là.
Oui, oui. Bon, j'exagère peut-être un peu quand même. C'était pas 355 jours par an. Mais ça pouvait arriver. Les voitures qui brûlaient, ça, c'était régulier. Ouais. C'est chaque semaine. Mais les fusillades, c'était de temps en temps. Mais même de temps en temps, c'est trop.
Bien sûr, parce que c'est quel quartier exactement?
J'ai pas envie de mes enfants grandissent dans cette ambiance.
Oui.
C'est normal.
Est-ce que tu étais dans quel quartier?
C'était à Bagatelle.
Ok, ouais.
Ça s'est pas mal calmé hein, depuis tant d'années. Mais quand j'étais petit, c'était vraiment chaud entre Bagatelle, Rennerie, Bellefontaine,
Campus
Mermoz, tout ça.
Ouais, c'est vrai que c'est une condensation, je vois très bien où c'est. Ouais. Moi, j'habite pas très loin, du coup.
C'est assez complexe. Ça s'est calmé, mais quand j'étais petit, c'était vraiment, vraiment chaud.
Ben, j'imagine. Donc là, il y a eu plusieurs déclics, plusieurs points de bascule, une décision à un moment donné, une rencontre grâce à cette prof qui donne de son temps pour vous faire partager sa passion. Ouais. Suite à ça, toi, donc tu continues ton lycée. T'as quoi comme diplôme à la fin?
Alors, moi, j'ai fait quelque chose qui n'a rien à voir avec le dessin puisque j'étais en bac pro technicien d'usinage.
Ok.
J'étais voué à finir en usine.
Mm-hmm.
Mais, enfin, voué. Non, parce que je savais que j'allais faire du dessin mon métier. Mais à cette époque-là, bon, ben je commençais à préparer un dossier pour entrer en école d'art avec l'aide de ma prof de dessin. Mmh. Voilà, donc j'ai énormément travaillé. Je voulais ce qu'il y a de mieux en termes d'école. Alors, j'ai fait Émile Kohn à Lyon.
Ok.
C'est une très grande école d'art.
Ok.
Et une fois que j'ai déménagé à Lyon, franchement, ça devait être les deux meilleures années de ma vie. À cette époque, c'était top. J'ai rencontré, j'étais dans un groupe de potes, de dessinateurs. On dessinait tout le temps. Mmh. Tout le temps. C'est-à-dire que on allait à l'école, on dessinait. Le soir, on dessinait. Ou sinon, après les cours, on restait devant l'école jusqu'à 20h à parler de dessin, de notre avenir. On se voyait le week-end à 7h. On était chez un pote. Je prenais le dernier bus à 23h30 pour rentrer. Je vivais chez ma tante. Pour rentrer là-bas, pour le lendemain revenir chez mon pote, on dessinait en groupe et reprendre le dernier bus ensuite pour rentrer chez moi. Et des fois, on allait au parc de la Tête d'Or, on allait se poser dans la rue, dessiner partout. C'était notre vie, quoi.
Ah, génial. Ouais. Donc là, tu t'es vraiment retrouvé parce que j'imagine que pendant tes études, si t'étais pas forcément passionné par l'usinage plus par le dessin, ça devait être difficile de rester motivé à avoir ton diplôme à ce moment-là,
non,
avant l'école.
Non, parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'avais conscience que les études, c'est très important.
Ok.
Donc, dans tous les cas, même si j'avais raté le bac, je ne l'ai pas raté, j'aurais refait une année.
Ok. Donc, tu avais cette motivation au fond de toi de te dire « les écoles, c'est important, je dois avoir le diplôme ». Peu importe la discipline, je trouve mon épanouissement ailleurs.
La passion, elle passait pas que par le dessin. Il y avait aussi l'éducation, il y a l'avenir également. Voir tes enfants grandir dans un bon cadre, un bon environnement. Et voilà, je me disais que si je fais des études, j'aurai du travail après les études et je pourrais déménager ou vivre dans un lieu qui convient mieux à ma famille, à mes enfants, dans un environnement plus sain.
Oui, complètement. Donc là, cet environnement hyper enrichissant à Lyon, tu fais 2 ans, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est ce moment-là où tu retournes à Toulouse?
Déjà, une fois que j'ai été à chez Émile Kohn,
ouais.
Je n'ai fait que non, parce que je me suis fait virer de l'école.
D'accord.
Parce qu'ils estimaient que j'étais pas assez bon en dessin.
Ok.
Voilà. Ils estimaient que j'étais pas assez bon en dessin, alors je suis resté 1 an de plus à Lyon. Je m'étais inscrit à l'université parce qu'il fallait que je fasse quelque chose. J'ai fait anglais et chinois, mais en parallèle, je continuais de dessiner tout le temps, autant que je pouvais. Et au terme de ces 2 années, je suis rentré à Toulouse. Et je me suis trouvé un travail en tant que... Non, en fait, je m'étais déjà trouvé ce travail-là en tant que réceptionniste de nuit pour pouvoir payer le loyer. Réceptionniste de nuit dans un hôtel. Et la journée, je dessinais quand j'étais pas à l'université.
OK.
OK. Ensuite, je suis rentré à Toulouse à 23 ans. Donc, je suis arrivé à Lyon à 20 ans. À la fin de mes 22 ans, je suis rentré. J'ai repris un autre travail de réceptionniste de nuit. Et la journée, je dessinais.
Ok.
Je me suis inscrit dans un atelier d'art qui s'appelle l'imagerie. Je suivais mes cours là-bas. Je lisais énormément de livres sur le dessin. La journée, je dessinais à fond. Et la nuit, j'étais à l'hôtel. Voilà.
Et la période à Lyon, du coup, parce que tu avais les cours à la fac la journée, le réceptionniste la nuit, et quand il te restait un peu de temps, tu dessinais, quoi. C'était déjà chargé.
C'est vrai que je détaille pas trop, mais je travaille pendant les vacances.
Ok, pendant les vacances. Ok.
Il me permettait de tenir quand même.
Ouais, bien sûr. Ok, donc là, l'imagerie Toulouse, t'apprends encore?
Je continue d'apprendre. Je suis des cours de modèles vivants, de dessin, de paysage sur la perspective, la peinture à l'huile également.
Ouais.
Je me prépare un dossier et au bout de 2 ans et demi, donc à 25 ans, je commence à exposer dans ma première galerie d'art. Par contre, je ne me souviens pas du nom, donc Je suis désolé de ne pas pouvoir donner plus de précision à ce niveau-là. Voilà, j'expose dans ma première galerie d'art. J'ai quelques commandes, mais ça dure pas très longtemps parce que comme je trouvais que le dessin c'était trop pratique et pas assez théorique, j'ai fini par m'inscrire à l'université, à Jean Jaurès, en histoire de l'art.
D'accord.
Voilà. Donc, je faisais toujours réceptionniste de nuit. Je faisais quelques commandes et j'étais à l'université. Et il fallait que je trouve le temps de dessiner.
Oui.
Donc, à partir de là, je dormais plus beaucoup.
J'imagine.
Voilà. Donc, j'ai fait ma première année à l'université. Franchement, c'était vraiment passionnant. J'adore l'histoire de l'art, tout ce qui est analyse d'œuvres. Et puis, je suis passionné par tout ce qui est dessin et peinture académique. Alors, c'était une très, très bonne année. J'ai adoré. En deuxième année, j'ai commencé à l'entrepreneuriat parce que mon cousin, un jour, m'a appelé et m'a dit, bon, écoute, viens, il faut que je t'emmène à une soirée d'entrepreneur. Et c'est comme ça qu'il m'a intégré à l'entrepreneuriat. Et j'ai commencé en m'entourant de businessmen. J'ai commencé à me lancer moi aussi. Donc, okay. Au bout de quelques mois, je louais une de mes chambres sur Airbnb. Je faisais plein de petites choses. Et au bout de quelques mois, j'arrivais à gagner 2000 euros par mois. Mm-hmm. Et là, j'étais toujours à l'université à Jean Jaurès en deuxième année. Et vers le mois de février, comme j'arrivais à générer 2000 euros par mois, j'allais de moins en moins en cours.
Oui.
Finalement. J'accordais une très grande importance aux études, mais le business a fait que j'ai fait passer ça en premier.
Oui.
Pendant les études. Et j'avais plus aussi beaucoup de temps pour dessiner. Mmh. C'est le problème. Parce que là, maintenant, j'étais réceptionniste de nuit. J'avais l'université, j'avais les cours à l'imagerie et le business. Plus Airbnb, il fallait que j'attende les personnes, que je fasse le ménage, etc.
Et c'était quoi le business en dehors de Airbnb? Tu faisais quoi?
J'avais Airbnb, ça rapporte.
Ouais.
Réceptionniste de nuit et je faisais du MLM.
Ok.
Voilà. Ensuite... donc du coup j'ai commencé à délaisser un peu les cours à
ouais.
l'université. Ok, je me suis dit bon, si entre février et mars j'y vais pas, c'est que j'ai abandonné.
Ouais.
Donc, du coup au mois de mars j'y suis pas allé.
Ouais.
Donc j'ai laissé tomber. J'ai commencé à réfléchir à une solution qui me permettrait de vraiment me lancer dans le business que je veux, c'est-à-dire ouvrir un atelier d'art. Bon là entre mon adolescence et mes 26 ans, je suis passé par plusieurs phases où au collège ou au lycée, je voulais bosser pour Pixar ou DreamWorks. À 20 ans, chez Emile Cole, je voulais être illustrateur,
mm-hmm.
faire des illustrations pour Magic, pour Wizard of the Coast, pour Blizzard.
D'accord, ouais.
Bosser dans le domaine du jeu vidéo. Et petit à petit, je me suis... plus rediriger vers le dessin académique, ouvrir un atelier d'art pour pouvoir enseigner le dessin. Okay. Là, je me suis demandé, bon, il faut que je me lance dans l'entrepreneuriat. Mon but, c'est d'ouvrir un atelier d'art. Comment est-ce que je fais? J'avais pas les finances parce que ça coûte extrêmement cher. Payer le local. En plus, moi, j'ai toujours tendance à voir tout en grand. Donc, payer le local, les chevalets, les toiles, etc. Ça demandait énormément d'investissement que je n'avais pas. Mmh. Et en parallèle, je suivais tous les infopreneurs.
Oui. Du genre qui...
dans mon lit, je réfléchissais et je me demandais comment faire. J'ai pas les finances. Comment je peux faire pour ouvrir un atelier d'art? Ça va me prendre du temps. Si je dois économiser, je vais attendre jusqu'à mes 30 ans. J'ai pas envie d'attendre autant de temps. Et d'un coup, m'est venue une idée. Je me suis dit, mais oui, s'ils vendent tous des formations en ligne, j'ai qu'à créer un atelier d'art en ligne, créer des mmh. cours de dessin en ligne et les vendre via YouTube. Ça, c'était environ au mois de mars.
Okay.
Et donc, j'ai décidé à partir de ce moment-là, qu'en septembre, j'allais quitter mon travail. J'allais quitter l'hôtel.
Donc, une deuxième décision.
Hein?
Donc, une autre décision. Tu décides.
Ouais. j'avais décidé que de mars à septembre, j'allais préparer mon départ. Donc, j'ai commencé à en parler à la directrice, à parler aux collègues qui sont autour de moi. Et j'ai commencé à me former au business en ligne, créer une chaîne YouTube, savoir comment tout ça se passait en fait, parce qu'il faut savoir créer une page de vente, créer les formations, quel matériel je vais utiliser, comment vendre, le storytelling, etc. Tout ça, ça s'apprend. Mais là, je devais me concentrer, chaque chose en son temps, fallait que je me concentre uniquement sur les cours. Donc, se passe mars, avril, mai. En juin, donc on arrive aux vacances d'été, je me suis donné 3 mois pour préparer 3 formations de dessin. Donc, c'était j'apprends à dessiner le portrait, j'apprends à dessiner le corps humain et le processus des valeurs. Le processus des valeurs, c'est les ombres et les lumières.
D'accord.
Donc, la nuit, j'étais à l'hôtel. Je faisais mes montages vidéo. La journée, j'étais chez moi, je dessinais.
Parce que l'avantage de l'hôtel, c'est que tu pouvais faire un peu autre chose quand il n'y avait pas de clients.
Ouais. C'est ça. Je faisais montage vidéo, je préparais les vidéos. Je faisais tout ce que je peux faire en dehors de chez moi.
Et ouais.
Et quand j'étais chez moi, la journée, je dessinais et je dormais pas beaucoup. Je dormais donc je quittais le travail à 6 heures. J'arrivais chez moi à 7 heures. Je dormais de 7 heures à 10 heures et de 17 heures à 19 heures.
Ah ouais, donc 5 heures au total divisé en deux, quoi.
Et parfois, je faisais 4 heures même.
Ah ouais.
Ouais, divisé en deux. C'est ça.
Comme les marins, quoi, qui font le tour du monde en voilier.
C'est ça. Et donc, j'ai fait ça pendant 3 mois. J'ai commencé à créer aussi un système d'emailing.
Oui.
J'ai réussi à capturer mes premiers prospects comme ça. Pourtant, je faisais pas de pub, rien du tout, et ça me surprenait à chaque fois. Et donc, je me rapproche du mois de septembre, je me suis dit, bon, mais le 1er septembre, c'est mon dernier jour, le 31 août, plutôt, et le 1er au matin, septembre, ce sera mon dernier jour. Là, je prépare tout, je m'en vais. J'ai pas dit aussi que j'avais un chien.
Allez. D'accord.
Donc, j'avais un chien, quand je rentrais le matin, je le promenais, je le reprenais à midi, et ça va être important pour la suite.
OK. Non, mais j'en ai un aussi et je sais que ça peut prendre un peu de temps, hein, les promenades, tout ça.
C'est ça. Et on se rapproche du mois de septembre. Arrivé au 1er septembre, donc c'était mon dernier jour, la dernière nuit, le 31 août, 1er septembre, j'avais tout bien préparé. Le site était en ligne, les cours étaient en vente. La chaîne YouTube était créée, j'avais même créé... J'avais tourné pour 3 mois de vidéos d'avance.
Oui.
Donc, j'étais vraiment productif. J'étais à fond, quoi. Le 1er septembre, donc le 1er septembre à 6 heures, c'était mon dernier jour. J'ai dit, bon, ben, super, au revoir. C'était un plaisir, quoi. Je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Bye, j'en ai marre. Parce que 7 ans, quand même, hein. 7 ans de...
Ouais, 7 ans.
Ça te, ça te bousille la santé, hein. Ouais, la fatigue.
Ouais, ouais. Ah ouais, j'imagine.
J'étais tout le temps fatigué. Tout devait bien se passer. Tout s'était toujours bien passé jusqu'à aujourd'hui. Et tout devait bien se passer pour la suite parce que j'avais tout prévu.
Eh oui.
Tu vois, surtout que j'avais fait 7 ans sans m'arrêter quand même. Et je me suis dit, bon, mais là, je vais toucher 2 ans de chômage environ. Ça me donne 2 ans pour bien lancer l'entreprise. Et gagner ma vie avec. Tout devait bien se passer. Je pars le 1er septembre. Le 2 septembre, mon appartement est infesté par des punaises de lit.
Ah.
Ça veut dire que je devais rester à l'extérieur, je pouvais pas travailler. Le 2 septembre, m'arrive ça. Le 8 octobre, mon chien meurt.
Ah.
En novembre, je me fais cambrioler. En décembre, c'était un truc de dingue. Franchement, tout devait bien se passer. Tout se passe mal. Tu vois? Du coup, À l'hôtel, le directeur voulait pas me passer mes papiers pour débloquer le chômage. Du coup, je pouvais même plus payer le loyer.
Waouh.
J'avais même plus d'argent. Et je me levais, je me disais, mais c'est pas possible. Mais comment j'ai pu en arriver là? Comment je passe d'un salaire? Et je pouvais vivre normalement, j'avais tout prévu. Et finalement, tout se passe super mal, quoi. Donc voilà, tout se passe mal. En novembre, il m'arrive ça. En décembre, qu'est-ce qui m'est arrivé en décembre? Je sais plus. En fait, je me suis fait cambrioler, ça devait être le 18 novembre. OK? Parfois dans ces moments-là, tu te réveilles même la nuit et tu te dis mais c'est pas croyable. Mais ouais. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu vois, j'avais tout prévu. Enfin bon, voilà, c'est des choses de la vie. On passe tous par là. J'ai été cambriolé le 18 novembre et le 29 novembre, je fais ma première vente. Au moment où j'étais le plus désespéré.
Oui.
Tu vois, le plus dépité. Il me manquait plus qu'à abandonner et retourner sur le marché du travail.
Mm-hmm.
À ce stade-là. Et je me lève un matin, démoralisé, j'ai faim. De toute façon, je mangeais presque plus. Donc, j'avais perdu 10 kilos en plus à cette époque-là.
Ah ouais.
Oui, vu que je pouvais plus me nourrir. Et je me lève un matin. Je vais sur mon ordinateur. Ah oui, et faut préciser que quand je me suis cambriolé, on m'a volé mon matériel.
Évidemment.
Donc, je pouvais plus tourner de vidéo. Je pouvais plus rien enregistrer ou quoi que ce soit. Et comme j'avais tourné 3 mois de vidéos en avance, j'avais septembre, octobre, novembre.
D'accord.
Et en décembre, tout s'arrêtait. Tu vois? Et donc, voilà, je me lève un matin. Un 29 novembre, dépité, j'allume l'ordinateur, je vais voir mes boîtes mail, je vois Amazon Premium, vous avez gagné 6,18 €. C'était le plus beau jour de ma vie, je pense. À partir de ça, c'était un signe. C'était le signe, tu dois continuer. 6 €, c'est rien 6,18 €, hein, mais la terre entière l'a su. J'ai appelé tout le monde. Tous les membres de ma famille, mes amis, mais la seule chose que j'ai pas fait, c'est crier dehors. J'ai gagné.
Parce que du coup, là, toi, t'avais tourné les vidéos, t'avais ta formation, t'avais fait de la capture d'email, et en gros, l'idée, c'était de les gens, comment ils te trouvaient pour convertir après ta formation.
Mais sur YouTube.
Ok, sur YouTube. Donc, t'as posté les vidéos sur YouTube.
J'ai posté des vidéos sur YouTube à partir de septembre. J'avais aussi des livres de dessin en vente sur en affiliation sur mon site.
Ok.
Et c'est ces 6,18 € là que j'ai gagné le 29 novembre.
Ok, très bien.
Et là, franchement, j'étais trop, trop heureux. Je me suis dit, enfin, en fait, c'est possible de gagner de l'argent en ligne. On peut le faire. Et là, franchement, je me suis dit, non, mais c'est impossible que j'abandonne. C'est un signe. Il faut que je continue. Donc, je savais pas quoi faire. Toujours, puisque j'avais toujours pas d'argent, j'avais toujours pas de quoi enregistrer. Donc, je me demandais comment faire. Et en fait, comme j'avais toujours mon téléphone, j'ai commencé à enregistrer quelques vidéos avec mon téléphone. Même si la qualité était vraiment médiocre, j'ai fait avec les moyens du bord.
Oui.
J'ai enregistré quelques vidéos avec mon téléphone. Le mois de décembre passe, puisque c'était le 29 novembre. Et fin décembre, je fais 25 €. Donc, en novembre, j'ai vendu quelques livres pour 6,18 €.
Mmh.
En décembre, j'ai vendu ma première formation et c'était 27 €. Pardon, 27. Je me suis dit, waouh! Donc, de 6 à 27, j'ai quand même multiplié mon chiffre d'affaires par 5, même si ce n'est rien.
Ben oui, hein, mais c'est ça.
Je dis, mais qui multiplie son salaire par 5? Personne. Personne. En un mois, tu vois, à part le grand PDG qui peut, lui, s'augmenter parce que c'est son entreprise et que c'est lui qui décide son salaire, personne ne fait ça. Même si c'est rien, je me suis dit, waouh, mais en fait, il faut que je continue. Il faut juste que je continue sur cette lancée. Et la dernière chose qui m'est arrivée, c'est en janvier. J'étais allé, tu sais, il y a des réunions sur Meetup. Et j'étais allé à une réunion Meetup un soir au centre-ville. Et à 23, on avait rendez-vous à l'hôtel Mercure, à Saint-Georges. Mmh. Donc, c'était un meet-up business. C'était une très bonne soirée. On s'est bien amusé. On a bien parlé. Et en sortant de l'hôtel, je vais récupérer mon vélo. Et en fait, je le récupérerai jamais parce qu'on me l'a volé. Ça, c'est la dernière chose qui m'est arrivée en janvier. Et je me suis dit, bon, mais de toute façon, avec tout ce qui m'arrive en ce moment, je vais prendre le métro. Ça, ce n'est que la continuité des choses.
Finalement. Une fois par mois, il y avait une galère.
C'était, ouais, une fois par mois, il m'arrivait quelque chose. Une fois par mois. Et franchement, quand je suis arrivé sur le lieu où j'avais garé mon vélo, j'étais même pas surpris. Il y avait tellement de galères que je me suis dit, ouais, bon, on me l'a volé. Écoute, je vais prendre le métro. Ouais. J'avais fini par accepter. Ouais. La déchéance. Ouais. J'ai fini par accepter toutes ces choses qu'on me met sur la route. Et voilà. Je me suis dit, bon, bah, écoute, je rentre chez moi, je prends le métro, voilà, j'arrive chez moi. Je fais ma nuit, tranquille. Et en janvier, c'était peut-être le 16 janvier. Alors, j'ai du mal à retenir les noms, mais c'est des dates que je retiens. Ouais. Donc, c'était le 16 janvier. Et à la fin du mois de janvier, je fais 127 euros. Mmh. Je dis, bon, mais là, c'est bon. Il faut que, les choses se passent pour le mieux, quoi.
Et t'avais toujours pas le chômage ou ça s'était débloqué?
Oui, aussi. Il y a eu ça. Par chance, j'ai réussi à récupérer mes papiers pour débloquer le chômage. Et j'ai touché le chômage, j'ai commencé à le toucher en février ou en janvier, okay. Je sais plus. Donc à partir de, non c'était en février, parce qu'à partir de début février ou de fin janvier, les choses se sont arrangées et ça a pu repartir, enfin ma vie a pu repartir tout à fait normalement. Toutes ouais. Les galères étaient finies. Voilà. Donc en janvier, je gagne 127 euros. Je peux de nouveau payer le loyer, m'acheter à manger et vivre une vie à peu près normale. Et pendant 2 ans, là, j'ai tourné des vidéos, j'ai publié, j'ai mis à jour mes formations, mais je faisais pas énormément de ventes. Je gagnais pas beaucoup d'argent. Hein. Je devais être à peut-être 300 euros de temps en temps par mois. Et voilà, c'était assez galère quand même. C'est assez galère. Je comprenais pas pourquoi je gagnais pas beaucoup alors que je m'investissais à fond, je publiais énormément, je faisais beaucoup de live, mais j'avais pas beaucoup de retours. Donc pendant 2 ans, ça c'était à partir de janvier 2020 jusqu'à... est-ce que c'était janvier 2022 ? C'est à partir de janvier 2020 ou février 2020 que j'ai commencé à toucher le chômage, et à partir de septembre 2020... J'ai plus de précision, je sais plus ce qui s'est passé, mais c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose. Et très sincèrement, je suis désolé de pas pouvoir le raconter, mais je m'en souviens pas.
Ok.
Donc pendant 2 ans, c'était assez chaud quand même.
Ouais.
Non mais attends, je me trompe sur les dates. C'est pas 2022, c'est septembre 2018 à septembre 2020.
Ouais, ok.
Voilà. Désolé. Donc, les 2 ans de galère, c'était plutôt ça. Septembre 2018, septembre 2020.
OK.
En septembre 2020, je fais passer une annonce sur Facebook disant que je cherche un modèle à prendre en photo pour pouvoir le dessiner pour mes futures illustrations. Et là, il y a un pote à moi qui était la personne qui a développé une équipe de MLM à Toulouse, mm-hmm. qui répond à mon appel, à mon sondage. À ma publication pour venir chez moi. Il faisait pas très long en plus pour qu'on fasse la séance photo et que je fasse le dessin. Donc on fait la séance. Lui, il réussissait énormément dans les affaires. Il gagnait environ entre 5 et 12 000 euros par mois.
C'était un assez. C'était quelle société?
C'était World Ventures.
Ok, ouais, les voyages.
Ouais, c'est ça. Voilà, donc il vient chez moi, on fait la séance photo, on discute, on va se promener, tu vois. on discute, je lui raconte que ouais, enfin c'est j'ai du mal à faire des ventes, mais voilà pourquoi je lui raconte pourquoi j'ai ouvert mon entreprise, mon histoire, un peu ce que je te racontais au début. Et au moment où il allait partir, il me dit écoute, moi je t'observe, je vois que tu lâches rien, de toute façon le dessin tu le fais depuis que t'es petit, que tu gagnes de l'argent ou pas, t'es focus là-dessus, t'es sérieux dans ton travail, tu fais ce qu'il y a à faire pour t'en sortir, mais tu fais pas de vente. Toi t'es sérieux, tu fais ton travail et t'es rigoureux là-dessus, et en plus je sais, je connais la raison pour laquelle tu dessines et je sais que tu lâcheras pas, voilà ce que je te propose. Je te montre comment vendre et en échange, je te prends 10% des revenus de ton entreprise. J'ai dit, ok, d'accord. Vaut mieux avoir 90% de 1 million que 100%
c'est clair. De 0.
Il me dit, il me fait cette proposition et il me dit, bon, ben là, je suis en train de déménager. On verra ça en octobre. C'était en octobre ou en novembre. Il me semble que c'est en novembre. Voilà, en novembre. Je dis, ok, d'accord. Donc, je retourne chez moi, je continue de faire mes vidéos, je gagne 300 euros par mois. Et en novembre, il était enfin posé chez lui, il avait terminé son déménagement. Et on fait notre premier coaching. Et il me dit, waouh, en fait, j'avais pas remarqué qu'il y avait autant de choses sur ton site. En fait, c'est presque complet. T'as les formations, le système de vente, le site, YouTube. Franchement, c'est cool parce que ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Il me dit, voilà ce qu'il y a sur ton site ou ce qui ne va pas. Donc, c'est très bien, tu as tout ça, mais tu n'as pas de phrase de vente. Il faut savoir que lui, c'est un vrai vendeur, quoi. Il te parle, il te retourne le cerveau, t'achètes, après, tu arrives chez toi, tu te réveilles, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cet objet, quand est-ce que je l'ai acheté, tu vois. Voilà, c'est... Et il me dit, voilà, il n'y a pas de phrase de vente. Et c'est un peu trop complexe parce que on sait pas trop où aller sur ton site. Alors qu'il faut que la personne, ton client, aille directement dans la formation et qu'il sorte la carte bleue. OK? Donc voilà. Voilà ce que tu dois modifier. Telle phrase, mets tel mot à tel endroit, inverse ces mots-là, mais transcris, enfin, lui, ce qu'il m'a montré, c'est vraiment comment agencer les mots pour que la personne achète.
Ok.
Comment structurer une phrase. Donc, tel mot, tu le mets là, telle phrase, tu la mets là. Cette image, enlève là, mets une image comme celle-ci. Voilà. Là, on a changé uniquement la page d'accueil. Et c'était un lundi. Le temps que je mette tout en place... Donc, ça m'a pris 4 jours, du lundi au jeudi. Quand j'ai tout terminé, le lendemain, j'ai fait des ventes.
Ah ouais?
Le lendemain.
Incroyable.
Je me suis dit, waouh, incroyable. On a changé les pages de vente, j'ai refait des ventes. Tac. Et il m'a dit, bon, maintenant, sur ta chaîne YouTube, tes vidéos, elles sont très bien. Elles sont de qualité et tout ça. Mais... il faut que tu structures tes phrases de manière à ce que la personne, elle a envie d'acheter, la personne aille sur ton site, sorte la carte bleue. Donc, on va faire un lancement de produit. Il m'a demandé, est-ce que tu as une formation que tu veux lancer? J'étais en train de préparer la formation, l'anatomie artistique. Formation sur l'anatomie, sur les muscles, le squelette du corps humain. Il m'a dit, ok, d'accord. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas préparer 3 vidéos. La première, ce sera une vidéo sur ça, sur les muscles. La seconde vidéo, ce sera une vidéo sur tel sujet. Et la troisième, ce sera la vidéo de lancement. Et voilà comment tu vas la structurer. Première partie, tu vas dire ça. Deuxième partie, tu vas dire ça. Troisième partie, tu vas dire ça. Quatrième partie, tu dis ça. Les mots, tu les structures comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je fais... donc, je prépare ma série de vidéos sur l'anatomie. Je fais ma vidéo de lancement. Le même jour, j'ai gagné 500 euros. Ah. Je me suis dit, putain, c'est incroyable. Et c'est le premier mois où j'ai dépassé 1000 euros, en fait. Tu vois.
D'un coup, quoi.
C'est, en fait, il suffisait juste que je structure mes mots, que je structure mes phrases, que je place les bons mots au bon endroit, que j'utilise le bon mot au bon moment. Et voilà que les ventes arrivent.
Ouais.
Donc, décembre, je dépasse 1000 euros. Janvier, février. Et à partir de mars, ça commence à baisser. Je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça baisse? Il m'a dit, mais c'est normal parce que toutes les personnes qui voulaient acheter ont acheté. Maintenant, il faut que tu aies d'autres prospects qui vont acheter. Ceux qui ont déjà acheté, il faut que tu leur revendes d'autres formations. Et les nouveaux qui vont arriver, eh ben, tu feras un autre lancement et ce sera les ventes vont repartir. D'accord. Donc, les choses se passent de mieux en mieux. Et sauf, il y avait certains mois où vraiment, je faisais pas beaucoup de ventes et c'était un peu chiant parce que du coup, ça s'équilibrait. Quand je parlais des formations, je faisais des ventes. Quand j'en parle pas, ça baisse. Donc, je peux faire un très bon mois et un très mauvais mois. Tu vois. Et ce qui est embêtant là, c'est que il n'y a pas une continuité dans l'augmentation des revenus où un mois t'es bien et l'autre mois tu te demandes si tu vas pouvoir vivre ou pas. Ça c'est ce qui est embêtant dans les affaires ou dans le fait de vendre des formations. Donc il y a en novembre 2021, j'ai lancé un système d'abonnement à 19, 37 et 57 euros par mois, ce qui fait que à la fin du mois, je sais que je vais toucher tant d'argent et ça lisse en fait.
Oui, bien sûr.
Et c'est un peu ce qui deux systèmes qui me conviennent très bien, vendre en one shot et vendre l'abonnement parce que tu sais que t'as des revenus qui vont entrer quoi.
Et donc ça, la bascule vers ce mode mensuel, c'est toujours ce que tu as ?
Oui, j'ai les deux.
Ok, t'as les deux. T'as des formations comme ça. Et comment tu fais pour alimenter chaque mois des contenus différents ? Est-ce que tu vends une progression dans le dessin ? Est-ce que tu vends du contenu ? Enfin, comment ça marche ? En fait, c'est quoi le programme de tu as chaque mois, qu'est-ce que tu trouves de différent ?
Alors, dans un cours de dessin, ce sont des packagings, oui. Formations sur le portrait, comme toutes les autres. Une fois que tu y accèdes, ce sont des vidéos préenregistrées.
Oui, ça oui.
Voilà. Ensuite, tu as accès à un groupe WhatsApp dans lequel tu partages tes dessins et je fais des corrections. On a également des Zooms dans lesquels j'entre plus en profondeur dans la correction.
Ok.
Mais également, j'ai un partenariat avec les enseignes d'art. Quand tu prends une de mes formations, tu reçois une carte membre qui te permet d'avoir des réductions dans les magasins d'art.
Super. Ça, tu l'as mis en place à quel moment ?
Je ne me souviens pas exactement de la date, mais c'était certainement au début de l'année.
Ouais, donc ça te fait aussi du revenu complémentaire, du coup.
Mais la carte, elle est gratuite une fois que tu as accès à mes formations.
Ah oui, mais eux ne te reversent pas quelque chose.
Hein?
C'est juste, eux te ne reversent, ils te reversent rien. C'est non. Plus un bonus pour tes participants.
Oui,
okay.
Oui, okay, oui c'est un bonus. Quoi.
Super. Et donc, depuis, tout roule, quoi. Où t'en es, là?
Mais là, depuis, évidemment, il faut chercher d'autres sources de revenus. Et comme à la base, mon objectif, c'était d'ouvrir un atelier d'art physique.
Oui.
Et je me suis dit, il faut que je développe absolument tout ce que je veux développer en ligne avant d'ouvrir cet atelier. En avril, mon objectif, c'était de trouver une école d'art dans laquelle je pourrais intervenir. Donc, j'ai contacté énormément de directeurs d'art, d'écoles d'art. Et en août, il y a une personne qui montre sur LinkedIn. Et cette personne, je dis, tu sais, j'aime bien regarder le profil des personnes LinkedIn qui me demandent d'entrer en contact avec moi. Et je vois responsable des ateliers au Gobelin. Les Gobelins, c'est une des meilleures écoles d'art au monde. Hein.
Oui, je connais. Ouais.
Je me suis dit waouh. Ouais. Alors ça, c'est une occasion en or. Il faut que j'aille lui parler. Je vais lui parler. Je lui envoie un message et elle me répond peut-être une semaine plus tard. Ah désolé de vous avoir répondu en retard. Là, je suis en vacances. On peut se recontacter fin août. D'accord. Je la recontacte fin août. Et non, j'attends fin août et j'ai toujours pas de nouvelles. Le 31, je lui envoie un message et j'ai toujours pas de réponse. Je me suis dit, ah bon, ben, six fois elle m'a zappé, elle m'a laissé tomber. Mais deux ou trois jours plus tard, elle me répond. Je me souviens pas exactement du message, mais elle m'a demandé si je voulais intervenir au Gobelin.
Ouais, génial.
Je me suis dit, waouh, mais c'est un truc de fou, ça. C'est-à-dire que les Gobelins, c'est la meilleure école d'animation au monde. Mmh. Je suis certainement le... Enfin, je veux dire, j'ai même pas enseigné là... j'ai même pas étudié dans une école d'art. J'ai même pas travaillé dans une dans une structure d'animation chez Disney, chez DreamWorks ou quoi que ce soit. Ils m'ont pris uniquement sur la qualité de mon travail.
Donc, aller voir ton travail, déjà, ça, c'est gratifiant. Et en plus de ça, elle le reconnaît et t'invite.
Ouais. Et donc, c'était cool. Parfait. On s'est appelé. Elle m'a dit ce dont elle avait besoin. Elle veut que... Et ce qu'elle veut, c'est qu'en fait, j'enseigne parce qu'ils ont développé à partir des confinements les cours en ligne. Donc elle veut que je gère les cours en ligne et les stages de dessin.
Ok.
Voilà. Donc maintenant, je commence les cours en ligne et mon premier cours c'était le 18 octobre, là il y a deux jours.
Ça s'est bien passé?
Ouais. Franchement, c'était cool. C'était top. Et donc là, j'ai eu mon premier cours le 18 et dimanche, je pars à Paris pour enseigner là-bas pour deux semaines.
Ah ouais, génial. Trop payé en plus, j'imagine.
Non, mais c'est top. Franchement, c'est cool.
Bah, le travail est récompensé.
Ouais, mais...
Quand tu persévères.
C'est ça.
Est-ce qu'il y a des éléments de ton parcours sur lesquels je t'ai pas emmené et que tu aimerais partager?
Là, je pense à rien.
Ok. J'ai quelques questions que j'aime bien.
Tu parlais des difficultés.
Bah, du coup, c'est quoi ta relation avec l'échec, par exemple? Ou les difficultés?
Bah, tu sais, déjà, à l'école, j'étais pas très bon. Donc, j'étais toujours très moyen. J'étais toujours à 10 de moyenne. Donc, le succès, on va dire que je ne l'ai pas connu. J'ai pas connu de gros échecs, mais j'ai toujours été très, très moyen et dans la moyenne.
Ok.
Soit au collège, au lycée. Ce que j'ai peut-être vécu comme un premier échec, c'était de m'être fait virer des 1000 codes. Mais même encore là, j'ai pas abandonné.
Exactement.
En fait, je pense que déjà, si j'avais vécu dans un autre environnement, je prendrais l'échec d'une autre manière. Tu vois, si j'avais vécu à la campagne, que tout était lisse dans ma vie ou quoi que ce soit, mais ma vie, elle n'était pas lisse.
Ouais. Donc, du coup, tu t'es battu, quoi.
C'est ça. Donc, j'ai une approche vis-à-vis de l'échec qui est peut-être différente des autres ou qui est celle de quelqu'un qui se bat pour pouvoir vivre. Pour nourrir sa famille, Donc moi, j'abandonne pas.
Ça s'entend, effectivement. Et j'ai l'impression que c'est que le début.
Non, mais ça fait que commencer, hein. Comme je dis, j'ai 32 ans et il me reste 40 ans à vivre.
On a exactement le même âge.
Il me reste 40 ans à vivre, donc c'est pas aujourd'hui que je vais arrêter, hein. C'est pas demain la veille. Ce n'est que le début.
Là, tu as posé les fondations. Maintenant, il faut construire.
Ouais, ouais. Prochaine étape. Maintenant, j'ai mon atelier d'art en ligne. J'enseigne au Gobelin. Prochaine étape, c'est d'arriver à faire vendre mes formations dans les écoles, sur les sites des écoles, les formations en ligne.
Oui.
Donc, développer la partie en ligne dans les écoles d'art. Créer ma propre marque de matériaux d'art. Donc, tout ce qui est crayon, carnet, taille crayon, gomme.
Pourquoi? Juste...
Parce que je veux créer tout un écosystème autour de l'art.
D'accord.
Avoir les ateliers d'art. Ouais. Dans les ateliers, il y aurait des galeries.
Ouais.
tout ce qui est matériaux d'art et quoi, enfin atelier d'art en ligne et physique et voilà.
Génial. Qu'est-ce que ça serait la croyance limitante que tu avais à un moment donné, il y a quelques années, et que tu as réussi à faire sauter de par ton parcours?
Quand j'avais 25 ans, je trouvais que j'étais pas assez bon pour pouvoir enseigner.
D'accord.
Parce que on essayait déjà de me lancer, mon cousin, celui qui m'a lancé dans l'entrepreneuriat, il essayait déjà de me pousser à créer une chaîne YouTube et à enseigner et donner des conseils. Et je disais, mais non, je suis pas assez bon. Parce qu'en fait, je suis assez perfectionniste. Je sais pas si t'as vu mes dessins.
Si.
Mais, enfin, tu vois, je suis assez perfectionniste. Et quand je fais quelque chose, je veux que ce soit bien fait. Et je trouvais que j'étais pas encore assez bon pour pouvoir enseigner. Et même au niveau de la pédagogie, quand tu veux enseigner quelque chose, il faut que ce soit assez simple pour que l'élève puisse comprendre, mais qu'également elle puisse bien implémenter et progresser.
Bah d'ailleurs, d'où ça devient cette envie d'enseigner? Parce qu'au départ, tu voulais faire des illustrations, donc plutôt vendre tes créations. D'où t'es venue l'envie de transmettre?
Alors ça, je pourrais pas te répondre, mais je pense que c'est plutôt l'envie de faire du business.
Ok, ouais, très bien. Ouais, non, mais c'est une réponse.
Créer ma marque.
Ouais.
C'est plutôt de l'entrepreneuriat.
Ok, ça marche. On n'a pas trop parlé du regard des autres, de ton environnement et tout. Est-ce que, alors tu nous as parlé des rencontres déterminantes que tu as fait, hein. Il y a ton cousin, il y a la personne qui t'a aidé à vendre, il y a la prof. Mais en dehors de ça, les gens, comment ça a joué le regard des autres dans ton évolution, toi? Est-ce qu'il y a eu un impact?
Ce qui est bien, c'est que personne ne m'a mis de bâton dans les roues. Personne ne m'a dit ce que tu fais, c'est nul, arrête, l'art, ça rapporte pas d'argent. Personne ne s'est mis sur mon chemin, au contraire. Au contraire. Surtout quand tu vois un jeune comme ça, tu sais, les ados, ils aiment souvent sortir en boîte et tout. Moi, je restais chez moi et je dessinais. Mmh. Donc, encore aujourd'hui, quand je pars, tout le monde sait que je ferai pas de bêtises. Tout le monde sait que je reste chez moi, je dessine. Je suis pas quelqu'un qui sort en boîte, qui fume. Je fume pas, je bois pas, je vais pas en boîte. Tu vois. Donc moi dans ma famille, ils se disent, ah bon, mais il dessine, c'est cool. Il est pas dehors avec ses potes en train de faire des bêtises. On sait pas ce qu'il est en train de, quel genre de sottises il est en train de faire dehors. Ou...
Ouais. Bon.
Tu vois, personne ne m'a mis de bâton dans les roues. Au contraire, je restais chez moi, je dessinais. Personne ne me dérangeait. On m'encourageait.
Ouais, et quand tu as eu un soutien.
Dans ma famille, il y a beaucoup de dessinateurs.
D'accord.
Je suis sûr qui est allé aussi loin.
Mm.
Mais comme il y a beaucoup de dessinateurs dans ma famille, ça a peut-être joué à ça aussi.
Ouais, je comprends. Et pendant ce parcours, quand même, t'as eu plusieurs difficultés, des défis, et ça a été quoi, finalement, le plus gros défi, et comment t'as trouvé la force de le surmonter dans les moments un peu plus difficiles?
Ben, le plus gros défi, je pense que c'est les 4 mois, là, où
ouais.
mais tout m'est tombé dessus. Au moment où j'allais abandonner, où j'étais en train de me poser des questions, ben, il y a eu cette vente à 6,18 €. Tu vois? Et j'ai continué. Le mois suivant, j'ai fait 27 €. Pourtant, j'étais au fond du trou.
Enfin, mais... Pourquoi t'as continué alors? Pourquoi t'as pas abandonné? Qu'est-ce qui t'a fait?
Mais c'était un signe.
Hmm. C'était ouais, c'est cette vente. Jusqu'à la vente, ça allait. Et cette vente, ça t'a redonné l'espoir et redonné la niaque.
Ouais. Mais oui. C'était un signe. C'était non, il faut que tu continues.
Hmm. Génial.
Il faut pas que tu t'arrêtes. En fait, il faut savoir voir les signes.
Ouais.
Dans la vie. Il y a des gens qui voient toujours le verre à moitié vide ou qui voient tout ce qui va pas. Il faut savoir voir les signes. Et 6,18 €, c'est rien, mais c'est un signe.
Mmh.
Tu vois? Et des choses comme ça, ça m'arrive tout le temps. Au moment où tu sais pas, c'était peut-être au mois de juillet. Je me disais, purée, le mois d'août, il va être galère parce que, en août, tout le monde est en vacances, tu fais pas beaucoup d'argent, c'est un peu chiant, tout. j'étais en train de me dire ça, hein. Au moment où je me dis ça, il y a mon téléphone qui sonne et je vois 997 euros de vente. Oh, mon sang. Et là, le lendemain, on m'appelle, oui, Ismaël, parce que je donne des cours aussi à domicile. J'ai des élèves qui préparent avoir des cours à domicile et donc je me déplace en France. J'étais à Clermont-Ferrand, j'étais à Paris.
D'accord.
J'étais en Bretagne. Et le lendemain, j'ai reçu une flopée d'appels. Oui, Ismaël, est-ce que tu peux venir me donner un cours de dessin? J'ai dit, oh là là, le mois d'août, c'était le meilleur mois de depuis que j'ai créé Artcademy Atelier. C'était incroyable. Génial. Il y a toujours un signe, toujours quelque chose. Il faut savoir voir les signes, il faut savoir discuter avec les gens, parler avec eux, avoir des bonnes relations aussi, c'est important. Parce que tu sais pas si la personne peut changer ta vie en bien ou en mal.
Mais c'est ça, parce que tu vois, on parle de chance. Moi, ça me fait rire les gens qui disent « Oh, mais toi, t'as de la chance. » Mais en fait, c'est comme tu dis, c'est être ouvert aux gens, à attirer quelque chose et à être assez ouvert et alerte aux signes pour ben, le saisir, quoi.
Ouais.
Saisir cette chance.
Faut savoir voir les signes. Toutes les opportunités, la personne qui m'a rentré sur LinkedIn...
Ouais.
En fait, là, c'était une opportunité et un signe que tu ne peux pas rater, en fait. Elle m'a juste rentré sur LinkedIn. Je me suis dit, ça veut dire que une partie de mon avenir se trouve là. Je vais lui parler et aujourd'hui, je vais enseigner dans l'une des meilleures écoles d'art au monde. C'est même pas l'une des meilleures écoles d'art en France. Regarde, va sur Google, tape top ou classement des écoles d'animation dans le monde et les Gobelins, ils sont numéro 1. Et moi, j'ai jamais fait d'animation, j'ai pas étudié dans une école, je me suis dit... En fait, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir, tu sais, on appelle ça le syndrome de l'imposteur.
Oui.
Il y a quelques jours, je me suis dit, au moment où il fallait que je leur envoie tous mes papiers, je me suis dit, mince, mais ils vont se rendre compte que j'ai jamais étudié, que j'ai jamais travaillé dans le domaine, et ils vont se rendre compte que je suis un imposteur, et ils vont me dire, bon, ben finalement, on n'a plus besoin de toi et tout. Mais en fait, trop pas. Parce qu'après, elle m'a rappelé pour me rajouter des heures. Mais c'est incroyable.
Génial.
Tu vois. Franchement, il faut voir les opportunités. Il faut en lâcher aucune. Ne font rater aucune.
Est-ce que tu as une citation favorite qui te porte?
Il faut faire en sorte que la main obéisse au cerveau. Ça, c'est une citation qui concerne le dessin.
Ok.
Si tu veux faire du bon travail, il faut que ta main obéisse à ton cerveau.
Qu'est-ce que tu mets derrière?
Mais derrière, je mets tous les dessins que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui.
Ok. Parfait, ben merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres choses à nous partager ou est-ce que tu penses que c'est bon, on a fait le tour, on a vu pas mal de choses, hein.
Je pense qu'une fois qu'on aura terminé, que je reprendrai le travail, je vais me dire « mince, j'ai pas parlé de ça
». Non, on a déjà bien vu ton parcours et c'est très inspirant parce qu'effectivement, ben, on voit que ça a été porté par des décisions, par des rencontres, mais surtout des difficultés et que t'as rien lâché et que t'avais vraiment ça en toi et que ben, aujourd'hui, on voit que c'est le début d'une belle aventure. Donc, il me tarde de suivre la suite. Merci beaucoup, Smaël.
De rien.
Bonne journée à toi.
Merci, toi aussi.
Merci beaucoup pour ton écoute et bravo d'être resté jusqu'au bout. Si tu as aimé cet épisode, écoute, je t'invite à le partager autour de toi. Pourquoi pas même mettre une super note sur l'appli de podcast sur laquelle tu m'as écouté. Un gentil commentaire, c'est le meilleur moyen de faire connaître ce podcast, de parler de jolis rêves et surtout de passage à l'action.